Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Ainsi
qui
soit-il.
soit-il. Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. Mes très chers frères, bienheureux celui auquel Dieu pardonne ses péchés. La bonté de Dieu se manifeste par le fait qu'il nous a adoptés pour ses fils en notre Seigneur Jésus-Christ. Elle se manifeste, cette bonté, en plus en rendant la vie aux malades et aux morts, qu'en créant l'univers et tout ce qu'il contient. Il y a une plus grande gloire pour Dieu à ressusciter un mort spirituel qu'à créer une créature à partir de rien. En ce jour, 18e dimanche après la Pentecôte, l'Église nous enseigne d'une façon très encourageante. Alors que l'année approche de sa fin, et il se trouve que l'Église nous expose encore une fois, avec la sollicitude d'une mère, les principes de la vie chrétienne, afin que nous les pratiquions. Nous avons donc à voir, avec l'aide du Saint-Esprit, plusieurs choses dans les textes de la messe d'aujourd'hui qui pourront à la fois rafraîchir notre mémoire, fonder notre foi et nous donner des aspects pratiques pour que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Tout d'abord, nous aurons à nous poser la question, qu'est-ce que la vérité de Dieu? C'est une référence à la prière de la Secrète qui nous intéressera particulièrement aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité de Dieu? Que signifie suivre la vérité de Dieu? Voilà des choses que nous verrons. Mais tout d'abord, nous parlerons de cet échange admirable, toujours dans la secrète, qui est le moteur de la religion. Et quel est le moyen de cet échange admirable et quel est le sens de la création, puisque nous allons voir que par cet échange admirable, la création prend tout son sens. C'est alors que nous nous poserons la question de savoir quelle est la vérité de Dieu. Et enfin, nous terminerons en disant un mot des mœurs des chrétiens. Nous en donnerons quatre caractéristiques tirées des textes de la messe d'aujourd'hui. Nous nous poserons la question de comment savoir que la grâce agit en nous et aussi comment faire bon usage de la grâce qui nous est donnée en notre Seigneur Jésus-Christ. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez l'oraison appelée la secrète, qui sera dite tout à l'heure. Ô Dieu, qui par l'échange admirable qui s'opère en ce sacrifice, nous donnez d'avoir part à votre unique et souveraine divinité. Faites que, connaissant votre vérité, nous nous attachions également à la suivre par une conduite digne d'elle. Ô Dieu, qui par l'échange admirable qui s'opère en ce sacrifice. Deus, qui nos per huius sacrifici veneranda commercia. C'est un mot qui, en français, est un peu négatif, le commerce, mais commerce signifie littéralement l'échange. Donc il y a un échange. Et cet échange est pour il y a un échange qui se fait dans le cadre de la religion, et c'est pour cela que lorsque l'on dit que en dehors de l'Église on ne peut pas être sauvé, cela est vrai, mais ce n'est pas une question, disons, de se battre de querelle de clocher, comme on dit d'une façon vulgaire. Ce n'est pas c'est parce que seulement dans l'Église se trouve réaliser cet admirable échange. De telle sorte qu'en dehors de l'Église, on ne peut pas être sauvé, et au sein de l'Église, il faut avoir part à cet échange admirable. Cet échange admirable a son fondement et son principe dans l'incarnation, c'est-à-dire dans l'abaissement du Verbe. Vous savez que pour nous les hommes et pour notre salut, le Fils éternel de Dieu s'est incarné de la Vierge Marie, il a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, c'est-à-dire que lui qui est Dieu, puisqu'il est la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, a assumé notre nature humaine, à l'exclusion du péché, afin d'offrir à Dieu un sacrifice, de réparation pour le péché originel. Voilà en deux mots la raison de l'incarnation. On pourrait dire encore d'autres choses, mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le fondement de cet échange est l'incarnation, c'est l'abaissement du Verbe. Notre Seigneur Jésus-Christ a assumé notre nature, il s'est fait homme, et plus encore, lui qui était innocent, puisqu'il n'était pas, il n'a même pas été préservé du péché originel, il n'avait pas le péché originel, puisqu'il ne pouvait pas l'avoir, puisqu'il est Dieu. Eh bien, il s'est fait péché, il s'est fait malédiction pour nous. Lui qui était le seul homme, qui a été sur terre le seul homme à ne pas être touché par le péché originel, puisque c'est lui qui a servi de modèle à la création, lors de la création d'Adam, si l'on peut dire, eh bien, il se trouve, et c'est lui qui a créé Adam, il se trouve que notre Seigneur, vrai homme, a assumé tout le péché que nous avions commis, que toute l'humanité a commis, depuis le premier homme jusqu'au dernier. Il l'a assumé en sa chair, il a porté, lui qui était innocent, et c'est pour cela qu'il a pu le porter, ce péché, lui qui était innocent, il a assumé en sa chair tout le péché de l'humanité, de telle sorte qu'il a été fait malédiction pour nous, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, comme dit le prophète Isaïe. Lui qui était innocent s'est offert à Dieu, son Père, lui qui était à la fois un homme innocent et un Dieu tout-puissant, il s'est offert à Dieu le Père en immolation, en holocauste, afin de racheter ceux qui doivent être rachetés. Le rachat de la colère divine, c'est en cela que consiste la rédemption. Lorsqu'on parle de la rédemption, on parle du rachat, et ce rachat, ce n'est pas simplement un rachat qui aurait été fait au diable, comme si le Christ lui avait racheté les êtres qu'il lui avait dérobés, même s'il y a un aspect de cela, bien entendu, puisqu'il a arraché au diable, il ne lui a pas donné de compensation, il a arraché au diable les créatures qu'il lui avait volées, mais il se trouve que c'est à Dieu que ce rachat a été versé, si l'on peut dire, rachat à la colère divine. C'est pour cela que la colère de Dieu s'est abattue sur le Fils éternel de Dieu incarné, et c'est pour cela que, comme il ne méritait pas que la colère de Dieu s'abatte sur lui, eh bien, il a accompli la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait tout cela parce qu'il nous a aimés. Il ne faut jamais l'oublier. C'est une transaction mystérieuse entre le Père et le Fils, dans l'unité du Saint-Esprit, que cette rédemption. Mais cette rédemption nous est connue, ou le motif de la rédemption nous est connu, nous dit Saint Jean, par le fait que, par cette vérité dogmatique, que le Christ nous a aimés. Le Père nous a aimés, et le Christ nous aime parce que le Père nous aime. Et le Saint-Esprit est la charité du Père et du Fils, l'amour du Père et du Fils qui nous est donné, de telle sorte que lorsque le Père nous aime, eh bien, il nous applique les mérites de son Fils et il nous donne son Saint-Esprit, qui n'est autre que l'amour du Père et du Fils. Le Christ nous a aimés. Et puisqu'il nous a aimés, il a eu dessein de nous unir, de nous unir à lui, de s'unir à lui-même ce que le Père lui a donné. Il attire du haut de la croix tous les hommes à lui, c'est lui-même qui le dit dans l'Évangile. Il attire, lorsqu'il a été élevé, il a attiré tous les hommes à lui, depuis la croix, de telle sorte qu'on peut lui appliquer, à strictement parler, le titre d'aimant des âmes. Comme l'aimant attire le fer, eh bien le Christ attire les âmes qui lui appartiennent du haut de la croix. C'est pour cela qu'il faut regarder à la croix avec confiance, sachant que ce sacrifice que nous voyons représenté, lorsque nous voyons les représentations de la croix, le crucifix par exemple, eh bien, il nous faut regarder à la croix avec la même confiance, et même une plus grande encore, que les Hébreux, nos pères, dans le désert, regardaient le serpent mis sur la verge de Moïse, cette préfiguration du Sauveur en croix, comme lui-même nous l'a appris, en parlant à Saint Nicodème. Il est l'aimant des âmes, c'est-à-dire qu'il est celui qui attire les âmes à lui. Lorsque nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ en croix, il nous faut croire qu'il nous attire vers lui, et c'est pour cela qu'il y a une chose merveilleuse dans ce spectacle horrible et pitoyable que nous voyons dans le crucifix, que seuls les chrétiens peuvent voir, c'est-à-dire nous ne voyons pas simplement un homme crucifié, nous voyons un Dieu crucifié. Et nous ne voyons pas simplement un Dieu crucifié, mais nous voyons un Dieu qui n'avait pas à être crucifié et qui a voulu être crucifié afin que nous ne le soyons pas, c'est-à-dire que nous ne soyons pas damnés. Il est donc l'aimant des âmes, il est celui qui aime les âmes, il est celui aussi qui les attire à lui, comme encore une fois l'aimant attire le fer à lui, c'est un lieu commun que l'on trouve dans les auteurs. Il se trouve que à la messe, lors de la messe, nous apportons à Dieu les oblats, c'est-à-dire le pain et le vin. Et Dieu les agrée, puisque c'est lui-même qui a fondé le Saint-Sacrifice de la Messe, ce qui est typique du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il se trouve que nous apportons le pain et le vin, et c'est le propre de l'offertoire, c'est pour ça que l'offertoire, nous offrons le pain et le vin à Dieu, et Dieu les agrée, mais il les agrée en les transsubstantiant, c'est-à-dire en leur ôtant par un miracle incompréhensible mais très réel, il leur enlève leur substance de pain et de vin, et il leur donne la substance du Christ, c'est-à-dire le corps, l'âme, l'esprit, la chair et le sang du Christ, son Fils unique. Il y a là quelque chose d'à la fois merveilleux et de mystérieux, en le sens où comment le pain et le vin peuvent, qui sont des choses inertes, peuvent devenir non seulement quelque chose d'autre, à la rigueur le plomb peut être transformé en or, mais il se trouve que non seulement ça devient quelque chose d'autre, mais ça devient quelqu'un. Ces choses deviennent quelqu'un. Et cela devient notre Seigneur Jésus-Christ, qui se voile et se drape de l'apparence des accidents, c'est-à-dire de l'apparence du pain et du vin, et qui est véritablement là. S'il n'y avait pas ce voile qui le recouvrait, l'apparence du pain et du vin, nous le verrions, mes très chers frères. Et lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, lorsque nous l'adorons, comme nous le faisons tous les dimanches après-midi, lorsque nous adorons le Saint-Sacrement, eh bien, il se trouve que notre Seigneur Jésus-Christ est présent, totalement présent, face à nous, seulement il est voilé par une apparence de pain. De telle sorte que c'est par les yeux de la foi, et comme dit saint Thomas, la foi seule suffit dans l'adoration eucharistique. Il est là, il est présent, et pourtant il nous semble absent, puisque nous voyons quelque chose d'autre que lui, et pourtant nous savons par les yeux de la foi, par la foi, que c'est lui. Donc à la messe, nous offrons les oblats, et Dieu les agrée en les transsubstantiant. C'est en cela qu'est accompli le sacrifice. Si le sacrifice était, si, comme font les protestants, par exemple, ils n'offrent pas à Dieu le pain et le vin, mais disons qu'ils le présentent, en quelque sorte au centre de leurs assemblées, ils présentent le pain et le vin, et ensuite ils communient à ce pain et à ce vin. On ne peut pas dire que, d'ailleurs ils ne le disent pas à juste titre, et ils ont raison, que c'est un sacrifice. Lorsqu'ils disent la Sainte Cène n'est pas un sacrifice, ils ont tout à fait raison, parce qu'ils ne font pas la messe. S'ils veulent célébrer la messe en disant qu'il n'y a pas la transsubstantiation, effectivement, ils nieraient ce qu'est la messe, c'est-à-dire un sacrifice. Lorsque le protestant communie au pain et au vin, il croit, et dans un certain sens c'est sa religion qui lui dit ça, il croit qu'il prend un symbole qui lui fait penser à Dieu, c'est-à-dire bien sûr que l'Eucharistie nous fait penser à Dieu, il nous fait penser tellement à Dieu que Dieu est présent, et nous pensons à lui parce qu'il est présent, il est là avant que nous pensions à lui, et quand nous communions à lui, bien sûr nous pensons à lui, c'est la moindre des choses, mais beaucoup plus, nous le prenons dans notre cœur, et plutôt c'est lui qui nous prend en lui-même, comme selon les paroles de notre père saint Augustin bien connu. Vous voyez, lorsque nous disons que contre les protestants que la messe est véritablement un sacrifice, les protestants nous disent oui, mais le sacrifice nécessite la destruction des oblats. Comme dans l'Ancien Testament, effectivement, lorsque l'on offrait un agneau à Dieu, eh bien cet agneau était consumé. Consumé, et il était aussi en partie consumé, en partie mangé par les communiants. Le sacrifice. La Sainte Messe est véritablement un sacrifice parce qu'il y a transformation, destruction de la substance de ce qui est offert. Et comme les protestants ne croient pas à la transsubstantiation, évidemment, il est absolument impossible de les convaincre que la messe est un sacrifice. Mais pour nous qui, par la grâce de Dieu, croyons ce que l'Église nous enseigne, nous savons que le sacrifice, la flamme du sacrifice, est opérée, ou son opération est réalisée par la destruction de la substance des oblats et leur transformation en autre chose. Lorsque l'animal dans l'Ancien Testament était détruit par le feu, il était transformé en autre chose, c'est-à-dire qu'il était transformé en cendre, et s'élevait sur l'autel un sacrifice d'agréable odeur au Seigneur Dieu. C'est pour cela que dans l'offertoire, il est dit « Moïse consacra un autel au Seigneur, offrant sur cet autel des holocaustes et immolant des victimes en présence des enfants d'Israël. Il fit le sacrifice du soir, sacrifice d'agréable odeur au Seigneur Dieu. » Il y avait donc par la destruction de l'animal immolé dans l'Ancien Testament, un sacrifice, une agréable odeur qui montait vers Dieu. Eh bien, cette agréable odeur, elle est toujours mentionnée spécialement lors de l'offrande du calice, et il se trouve que cette agréable odeur est une odeur, c'est l'odeur même de Jésus-Christ, puisque Saint Paul dit que pour les uns, l'odeur de Jésus-Christ est une odeur de mort, et pour les autres, une odeur de vie. Et c'est cette odeur de vie qui plaît à Dieu. Lorsque nous offrons le Saint-Sacrifice de la Messe, il se trouve que la destruction miraculeuse de la substance des oblats, du pain et du vin, étant produite par le Verbe de Dieu, les paroles mêmes de la consécration, il se trouve que ces objets, ces choses matérielles sont détruites, et à leur place, il y a la substance même des sacrifices, la réalité même des sacrifices de l'ancienne loi, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pour cela que le sacrifice est le moyen de cet échange admirable, puisqu'il est dit dans la secrète, « Ô Dieu qui par l'échange admirable qui s'opère en ce sacrifice, Deus qui nos per uius sacrifici veneranda comercia. » Donc par ce sacrifice. Le sacrifice, c'est le moyen par lequel se réalise l'échange. Nous ne pouvons pas trop insister là-dessus, parce que c'est une chose fondamentale. Nous ne pouvons pas recevoir de Dieu si nous restons ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas recevoir des biens de Dieu si ce que nous lui offrons n'est pas transformé. Lorsque nos pères dans l'Ancien Testament offraient à Dieu des animaux, ils ne venaient pas faire à leurs bœufs, à leur taureaux, à leur bouc, à leurs agneaux, un tour dans le périmètre du temple, et ensuite ils le ramenaient chez eux. Ils ne les donnaient pas non plus aux prêtres comme on donne la dîme ou comme on donne une offrande volontaire. On pouvait donner aux prêtres des choses en nature, du blé, du pain, des animaux, bien sûr, et tout ceci c'était des dons que l'on faisait en nature. Lorsque l'on offrait à Dieu un sacrifice, il fallait nécessairement que non seulement on perde, mettons par exemple le taureau qu'on amenait au temple, on amenait ce taureau au temple, mais ce taureau était en quelque sorte perdu pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les prêtres dont les troupeaux s'enrichissaient d'un nouveau taureau. Ce taureau était immolé, était donc tué, il était dépecé, il était coupé en morceaux. Une certaine partie était pour la communion, une certaine partie était pour les prêtres, une certaine partie était pour celui qui l'offrait, et le reste était brûlé. C'est-à-dire que tout ce qui, la graisse, les os, les chairs, etc., était brûlé en sacrifice à Dieu. De telle sorte que ce taureau qui avait été amené n'existait plus. De même, lorsque nous apportons le pain et le vin, ce pain et ce vin n'existent plus. Et à leur place, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la réalisation d'un admirable échange. Dans l'Ancien Testament, il y avait, en échange de cet animal offert en sacrifice, la promesse de la purification des péchés, qui devait être réalisée en réalité lorsque le Messie arriverait. C'était une purification, c'était le pardon des péchés par anticipation. Nous-mêmes, lorsque nous offrons à Dieu le pain et le vin, selon l'ordre de Melchisédek, il se trouve que nous recevons, comme dans l'Ancien Testament, mais non plus en espérance, mais en réalité, il se trouve que nous recevons le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu et tout ce qui va avec. La seule chose, c'est que nous ne pouvons pas nous imaginer que ce qui est offert demeure. Et comme par ce sacrifice du pain et du vin, qui sous un certain rapport est beaucoup moindre que le sacrifice des animaux, il se trouve, comme par le sacrifice de ce pain et de ce vin, c'est moins le pain et le vin que nous offrons que nous-mêmes qui consommons le pain et le vin qui nous offrons à Dieu, qui devons être donc détruits d'une certaine manière. Et c'est là où le Saint-Sacrifice de la Messe n'est pas simplement un sacrifice que nous offrons à l'extérieur de nous-mêmes à Dieu, c'est le sacrifice de nous-mêmes que nous offrons à Dieu. Il y a là un mystère. c'est un mystère d'échange. Nous donnons quelque chose de nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes, à Dieu, et il se trouve que ce pain et ce vin que nous avons donné, et qui est transsubstantié au corps et au sang du Christ, Dieu nous le donne dans la communion, de telle sorte que nous soyons transformés en lui. La communion, les paroles, il y a comme une sorte de double consommation, de double holocauste. Il y a le premier holocauste qui est accompli par le glaive de la parole, comme dit Saint Jean Chrysostome, c'est-à-dire lors de la transsubstantiation des oblats. Et lors de la communion, il se trouve qu'il y a un autre holocauste qui se fait. C'est pour cela qu'il faut communier avec les bonnes dispositions, en état grâce et en étant dans les bonnes dispositions, de telle sorte que cette flamme ne soit pas mise au milieu des épines, mais soit mise au milieu du bûcher préparé pour ordonné et préparé pour la réalisation de ce grand échange. Par ce grand échange, nous dit l'Église, la liturgie, vous nous donnez d'avoir part à votre unique et souveraine divinité. Vous nous rendez participes, c'est-à-dire participants. C'est le mot qui résume le privilège du chrétien. Le chrétien participe, et c'est une chose tellement admirable et tellement, imméritée, que de participer à l'unique et souveraine divinité, que dans une religion plutôt rationnel comme l'islam par exemple, on fait du péché par excellence la prétention à participer à la divinité. Tous les péchés seront pardonnés en quelque sorte aux musulmans, sauf l'hérésie qui consiste à dire qu'on peut participer ou qu'on doit participer à la divinité. Alors encore une fois, les musulmans ont leurs dogmes qui ne sont pas les nôtres, et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Tandis que nous, mes très chers frères, il se trouve que s'il est vrai que nous devons participer, que nous pouvons participer à Dieu, il se trouve que si nous ne participons pas à lui, alors véritablement nous passons à côté, complètement à côté, du sens et de la destination de la, non seulement de la vie chrétienne, comme on dit, trouver un sens à sa vie, c'est beaucoup plus que cela, mais nous passons à côté du sens même du pourquoi, de la raison d'être, de la création. La création a été créée par Dieu, à partir de rien, pour être un sacrifice offert à lui-même, par elle-même, dans son chef et dans son chef-d'œuvre, qu'est l'homme. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes, donc il se trouve que nous devons non seulement nous offrir à Dieu, mais aussi offrir toute la création en holocauste à Dieu. C'est c'est le mot qui résume le privilège du chrétien. Participer, c'est avoir part à Dieu comme le corps a part à la tête. Être, comme dit saint Paul, une même plante avec lui. Qu'est-ce que cette divinité ? Cette divinité n'est pas un supplément d'âme que Dieu nous propose si nous voulons aller plus loin dans notre vie chrétienne ou notre vie humaine. La divinité ici n'est autre que l'arche du salut. Dieu, en un mot, et je vous renvoie à ce que nous avons dit ces derniers dimanches, Dieu, en un mot, est l'antimonde. Et même si ça peut nous faire sursauter, mais en réalité, si le monde est une créature, si le monde en tant que création est une créature, donc il n'est pas Dieu. Donc si nous considérons Dieu, Dieu est tout sauf le monde. Or nous sommes dans le monde, et ce monde est déchu. Et ce monde est animé d'un mouvement centrifuge qui, justement, lorsqu'on l'aime, produit notre chute et notre esclavage. Dieu est donc, mes très chers frères, l'arche du salut, la divinité dont il est question ici, c'est bien sûr Dieu, c'est Dieu participé, il est l'arche du salut, c'est pour cela que l'Église est divine, elle ne peut pas être corrompue, elle ne peut pas périr, elle ne peut pas être transformée en quelque chose d'autre. Dieu est l'arche du salut, la divinité est l'arche du salut, Dieu est l'antimonde, c'est-à-dire qu'il est la source et la fin du monde. Il est celui qui l'a créé et il est celui qui doit le réintégrer. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'état intermédiaire. Nous ne pouvons pas être entre Dieu et le monde. Ou bien nous faisons partie du monde, ou bien nous faisons partie, par cet admirable sacrifice, eh bien, de Dieu, c'est-à-dire que nous devenons participants de Dieu, en étant tout d'abord membres de l'Église, membres vivants du corps mystique du Christ, et dans le Christ, puisque nous avons tout pleinement en lui et rien, absolument rien en dehors de lui, il se trouve que dans lui, en lui, nous sommes participants de la très sainte Trinité. C'est quelque chose qui nous dépasse tout ce qui peut être compris, tout ce qui peut être dit, et pourtant c'est une vérité. C'est une vérité fondamentale. Le diable divise parce qu'il est le meurtrier, il est homicide dès le commencement. Le diable divise, Dieu unit. C'est la réconciliation dont parle saint Paul, cette mystérieuse réconciliation opérée par le Christ entre Dieu et Dieu son Père et les créatures déchues, qui ne sont plus déchues puisqu'elles sont rachetées par le Christ. C'est le principe, il y a donc un principe de croissance dans la grâce, dans le sens où plus nous avons part au sacrifice de la messe, plus aussi il nous est donné par cet admirable échange d'avoir part à cette unique et souveraine divinité. C'est pour cela que dans la post-communion, qui est la dernière oraison que nous dirons aujourd'hui, eh bien nous disons au Seigneur, nourri du don sacré, nous vous rendons grâce, Seigneur, vous suppliant de daigner dans votre miséricorde, nous rendre de plus en plus dignes d'y participer. Il faut qu'il croisse et que je diminue, c'est cela le principe formulé par saint Jean-Baptiste, c'est là le principe de la croissance en grâce, c'est le principe de cet admirable échange, plus nous abandonnons de nous-mêmes et nous le donnons à Dieu, plus eh bien, Dieu nous donne de lui-même et nous devenons participants de la nature divine, pour parler comme saint Pierre. Dans la même secrète, nous disons donc, ô Dieu, qui par l'échange admirable qui s'opère en ce sacrifice, nous donnez d'avoir part à votre unique et souveraine divinité, faites, nous vous en prions, que connaissant votre vérité. Alors, la traduction que j'ai sous les yeux est bonne, mais on pourrait la perfectionner un tout petit peu. Presta quosumus, faites s'il vous plaît, ut sicut tuam cognoscimus veritatem. De même que nous connaissons votre vérité, ainsi nous la suivions, cette vérité, par des mœurs dignes d'elle. Faites que, de même que nous connaissons votre vérité, ça signifie que nous la connaissons par la foi que l'on croit. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être catholiques si nous ne croyons pas tout ce que l'Église nous enseigne. Et par cette oraison, cette secrète, il se trouve que nous croyons que, au sein de la religion, par le Saint-Sacrifice, s'opère cet admirable échange par lequel Dieu nous donne d'avoir part à son unique et souveraine divinité. Nous le croyons. C'est la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, nous dit l'Écriture, la foi en la vérité consiste à connaître ou à reconnaître, à croire en l'existence de Dieu et à croire dans le fait qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est saint Paul qui nous dit cela. La vérité de Dieu est donc beaucoup plus que quelque chose que l'on croit à propos de Dieu, c'est le fait de croire quelque chose que nous enseigne l'Église à propos de Dieu, de telle sorte à devenir participant de ce même Dieu. Lorsque vous entrez dans une école philosophique, on vous propose tous les dogmes que cette école professe, et dans la mesure où vous y croyez, ces dogmes deviennent vrais pour vous, et vous êtes participant de cette école, sachant que s'il n'y a plus personne dans cette école qui professe ces dogmes tombent en désuétude. Il n'en va pas de même avec la foi que l'Église nous propose. Même s'il n'y avait, par impossible, plus aucun croyant dans le monde à un certain moment donné, les vérités de la foi que nous propose l'Église à croire demeureraient véritables en elles-mêmes, puisqu'il s'agit essentiellement de croire en Dieu, et Dieu n'a pas besoin de l'humanité, puisque, si j'ose dire, pour parler comme un homme, avant que la création n'existe, Dieu existait déjà, et si la création devait être totalement détruite, Dieu continuerait à être. La vérité de Dieu, c'est donc qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La vérité de la créature, parce qu'il en a une aussi, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance de sa raison d'être. C'est qu'elle n'existe, elle n'existe pas par elle-même, mais elle existe par et pour Dieu. Et là, il y a encore une chose qu'il faut remarquer, c'est que quand bien même les hommes, dans leur ensemble, ne croiraient pas que la nature humaine est faite par Dieu et qu'elle est faite pour Dieu, il n'empêche que la nature humaine demeurerait faite par Dieu et pour Dieu. C'est une vérité qui est coextensive en quelque sorte à la vérité divine, puisque la vérité de l'homme, nous allons le voir dans un instant, la vérité de l'homme est en Dieu en réalité. La vérité de la créature, c'est qu'elle n'existe pas par elle-même, tout comme la vérité de Dieu, c'est qu'il existe par lui-même, et qu'elle est par Dieu et pour Dieu. Elle a été créée par Dieu et elle a été créée pour Dieu. Comparée à Dieu, la création est un néant, puisqu'elle a été tirée du néant, mais c'est un néant qui, en s'unissant à Dieu, n'augmente pas Dieu, mais il est illuminé par lui de la vie éternelle. La connaissance de la très sainte Trinité, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est véritablement en quoi consiste la vie éternelle. En nous fuyant, mes très chers frères, c'est cela le mouvement de la vie chrétienne, en nous fuyant, nous ne perdons rien en réalité. Notre vérité est en Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit, afin que tout comme nous connaissons votre vérité, et cette vérité nous enseigne sur Dieu et sur nous-mêmes, de même, nous nous y attachions, nous la suivions par une conduite digne d'elle. Que signifie suivre la vérité? Ça signifie, c'est une expression scripturaire qui signifie se conformer à elle. Chaque action du chrétien procède de la connaissance ou doit procéder de la connaissance de la vérité de Dieu et de nous-mêmes. C'est cela en quoi consiste le fait de vivre sous le regard de Dieu. Vivre sous le regard de Dieu, nous en parlons régulièrement puisque c'est une expression qui revient souvent, elle a trait au visage, à la face de Dieu. Il se trouve que vivre sous le regard de Dieu, c'est s'exposer au regard de Dieu qui brûle la paille. Il y a deux choses, ou plutôt plusieurs choses dont est faite la vie chrétienne et les actions chrétiennes, la paille, l'or, la pierre, c'est-à-dire des choses qui passent, qui ne résistent pas au feu, des choses qui sont purifiées par le feu, et des choses qui résistent au feu, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas consumées par le feu. Vivre sous le regard de Dieu, c'est-à-dire suivre la vérité, c'est ne jamais accomplir aucune chose qui ne soit capable de soutenir le feu de la face embrasée de Dieu. Cette face embrasée de Dieu, ce n'est pas simplement une face de colère, ça c'est une vérité, mais simplement pour ceux qui ne l'aiment pas. La face embrasée de Dieu, c'est la face discriminante de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui voit tout, Dieu auquel on ne peut rien cacher, aux yeux duquel on ne peut rien déguiser, et qui voit tout, et qui voit les choses telles qu'elles sont. Il voit les choses si elles sont faites, il les voit si elles sont faites pour l'amour de nous-mêmes, par orgueil, par concupiscence, par vanité, ou si elles sont faites pour l'amour de lui. Toutes les choses que nous faisons pour nous-mêmes, ou pour le monde, pour notre prochain, mais sans que ce soit pour l'amour de Dieu, eh bien, sont comme de la paille, qui ne résiste pas face à la luminosité, au rayonnement de la face divine. Ces choses-là sont consumées. C'est pour cela que toutes les bonnes œuvres que l'on peut faire en dehors de la charité ne sont pas forcément la même chose que des péchés, puisque les péchés sont carrément la transgression de la loi de Dieu, mais elles ne valent pas plus que le péché. Le péché ne résiste pas face à Dieu, il est consumé. Mais la bonne œuvre qui est faite sans la charité aussi est consumée. La bonne œuvre qui est faite avec la charité résiste au feu du jugement, et même elle peut être encore épurée, et pour devenir de plus en plus pure, de plus en plus agréable à Dieu. Vivre donc sous le regard de Dieu, mes très chers frères, c'est vivre d'une façon qui nous oblige à éviter tout ce qui peut être inutile dans notre vie, de telle sorte que nous n'ayons pas à avoir la honte de voir certaines de nos actions consumées. Bienheureux celui qui peut être puni par Dieu, châtié, corrigé par Dieu, et qui peut voir ses actions, sur le moment, être détruites. Je vous allez dire, c'est assez triste de voir ça, puisqu'on a l'impression que ça produit plutôt le découragement. Croyez bien, mes très chers frères, que si nous voyons nos actions qui sont faites sans la charité ne pas porter leurs fruits dès ici-bas, Dieu, c'est que Dieu nous aime et nous montre que ce n'est pas la peine de les continuer tant que nous n'avons pas la charité, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de nous accrocher à elle, il faut à tout prix demander à Dieu et s'exciter le cœur par les moyens de la parole de Dieu, de la liturgie, etc., pour de l'oraison, pour exciter notre cœur à la charité, de telle sorte que nous ne perdions pas notre temps. Beaucoup de gens construisent des choses magnifiques, des magnifiques palais, de magnifiques en bonnes œuvres, en bonnes actions, si l'on peut dire, qui malheureusement servent uniquement leur vanité, et comme Dieu ne les aime pas, il se trouve, semble-t-il, qu'ils ne voient pas que tout ce qu'ils font n'est qu'un château de cartes, n'est qu'un château de paille, si j'ose dire. Et lorsque viendra le dernier jour, tout ceci sera réduit en cendres, et rien ne subsistera plus de tout cela devant Dieu. Bienheureux celui qui peut voir ses actions de paille être réduites dès ici-bas en poussière, en cendres, de telle sorte à ce qu'il puisse changer ses actions, ses mœurs, et acquérir et pratiquer la charité. Vivre sous le regard de Dieu, c'est donc vivre sous le feu de la sainteté divine. C'est pour cela que dans l'offertoire, il est dit, encore une fois, il fit le sacrifice du soir, sacrifice d'agréable odeur au Seigneur Dieu. La destruction du créé par le feu de la charité est une agréable odeur à Dieu. Comment détruire le créé? Il ne s'agit pas de commencer à mettre le feu partout, il ne s'agit surtout pas cela, mes très chers frères. Il s'agit de tout faire pour l'amour de Dieu. De telle sorte que lorsque nous faisons une action bonne, c'est-à-dire une action qui relève de notre devoir pour l'amour de Dieu, et que nous ne nous y attachons pas, que si nous la faisons de tout notre cœur pour l'amour de Dieu, et que Dieu ne permet pas qu'elle subsiste, parce qu'il veut nous éprouver dans notre fidélité, nous la remettons très humblement entre les mains de Dieu, et nous ne nous désolons pas à outre mesure de sa destruction, alors, mes très chers frères, véritablement, nous avons offert à Dieu un sacrifice d'agréable odeur. C'est-à-dire que nous lui avons apporté une chose matérielle, une action que nous devions faire, et nous ne l'avons pas gardée pour nous, puisque nous l'avons faite pour lui, de telle sorte que si notre vanité est mortifiée par la bonne action que nous faisons, que ce soit en la faisant ou que ce soit en résultat direct ou en résultat indirect, il se trouve que véritablement cette action est agréée par Dieu, puisqu'elle est consumée par le feu de la charité. Si, lorsque l'Hébreu apportait son taureau au temple, il voyait le prêtre donc l'immoler et le couper, le dépecer, le mettre sur l'autel. Et s'il avait un pincement de cœur en se disant c'était quand même une très belle bête et c'est quand même bien dommage que notre religion demande de tels sacrifices de nous, est-ce que vous pensez que son sacrifice aurait été allait être agréable à Dieu? Il retenait sinon la chose, du moins l'amour de la chose, et bien entendu c'est cela qui amenait un certain nombre de gens dans l'Ancien Testament à offrir, comme nous disent les proverbes, les prophètes, à offrir à Dieu des animaux chétifs, des animaux malades, de telle sorte qu'ils n'avaient pas ce pincement de cœur lorsqu'ils voyaient une bête magnifique être offerte à Dieu. Et c'était en cela qu'ils irritaient la colère de Dieu et que Dieu a fait détruire ce temple qui finalement ne servait plus que la concupiscence humaine dans ces mauvais sacrifices. Combien de fois nous-mêmes nous offrons à Dieu des sacrifices, des actions que nous faisons, mais nous y mettons tellement d'une autre, et la plupart du temps ces actions sont en dehors de notre état, que Dieu ne peut pas les accepter puisqu'elles sont en quelque sorte inconsumables, si l'on peut dire, par lui. La charité n'y ayant quasiment aucune part, et quand je dis quasiment, c'est parce que la part qu'elle y a est une part imaginaire, il se trouve que nous offrons à Dieu des non-sacrifices. La destruction du créé par le feu de la charité, c'est cela qui produit cette agréable odeur à Dieu par laquelle Dieu accepte, qui fait que Dieu accepte notre sacrifice. Cette destruction commence par, nous dit saint Paul, par le pardon des péchés. C'est là, si Dieu nous pardonne nos péchés, il se trouve que lorsque nous faisons pénitence, lorsque nous nous convertissons, bien entendu, il faut que tous ces péchés, qui sont des actions mauvaises, mais que nous aimons, que nous avons aimées, que puisque nous les aurions pas faites si nous ne les avions pas aimées, il faut que ce pardon des péchés s'accompagne de notre part d'une renonciation, d'une détestation, d'une haine de ce que l'on a fait. Dieu ne peut pas détruire nos péchés si nous sommes encore attachés à nos péchés. Et c'est pour cela, mes très chers frères, c'est notre dernier point, que dans l'oraison, nous demandons à Dieu de suivre la vérité, c'est-à-dire d'offrir à Dieu ce sacrifice d'agréable odeur, mais de suivre la vérité par une conduite digne d'elle. Sic eam dignis moribus assequamur, afin que nous la suivions, cette vérité, eam dignis moribus, par des mœurs dignes. Qu'est-ce que ça signifie, des mœurs dignes d'elle ? Eh bien, les auteurs nous disent que nous en avons un exemple dans l'Évangile. « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. » Et un peu plus tard, notre Seigneur dit à ce paralytique, « Lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Les mœurs dignes que les chrétiens doivent avoir, dignes de la vérité de Dieu que les chrétiens doivent avoir, sont symbolisées par le fait de se lever et de prendre son lit. Vous allez dire, qu'est-ce que ça signifie? Justement, les auteurs nous disent ceci, « Le lit du pécheur, c'est ce qu'il aime, et en quoi il trouve son repos sur la terre, ses attaches criminelles, les objets de ses passions. La vraie conversion emporte et fait disparaître tout cela. De même que le paralytique était un homme immobile, gisant, qui était entièrement supporté par son lit, de même l'homme paralytique guéri, c'est-à-dire l'homme valide, désormais domine sur son lit, il le prend, il roule sa civière, il la met sous son bras et il s'en va dans sa maison. Il n'est plus gisant dans ce en quoi il trouve son repos et ses attaches criminelles sur terre, là où il met son amour sur terre, mais il maîtrise tout cela. Vous voyez, notre Seigneur ne lui a pas dit « Prends ton lit, détruis-le pour montrer que tu es guéri ». Et alors, sur quoi il va coucher la nuit? Il faut bien un lit pour se reposer. La seule chose, c'est une chose que de se coucher sur son lit le soir, lorsque c'est le moment de s'endormir, et puis c'en est une autre que d'être paralysé et de passer toute sa journée et toute sa vie couché sur un lit. Que Dieu nous garde, que Dieu assiste ceux qui sont dans cet état. Il se trouve, mes très chers frères, que symboliquement parlant, c'est la domination sur ce lit qui caractérise l'homme paralytique guéri. Le lit du pécheur, c'est ce qu'il aime et ce en quoi il trouve son repos sur la terre, ses attaches criminelles, les objets de ses passions. C'est donc, sous un certain rapport, la vie humaine, c'est donc même, je dirais, le devoir, parce qu'on peut capter son devoir et y mettre toute sa passion, c'est son devoir, c'est la part que nous avons ici-bas, mais c'est la part sur laquelle nous gisons en proie à nos passions. Alors qu'il faut maîtriser cela, et il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit saint Paul. Les mœurs dignes de la vérité, les mœurs dignes des chrétiens, ce sont les moyens par lesquels on reconnaît les chrétiens. Et donc, je vous en donnerai quatre caractéristiques de ces mœurs chrétiennes. Quatre, nous pourrions en donner bien plus, bien entendu, mais quatre sera suffisant pour notre méditation cette semaine. Quatre, dont la première caractéristique est la suivante. C'est une reconnaissance continuelle. C'est pour cela que saint Paul dit dans l'Épître, « Mes frères, je rends pour vous, à mon Dieu, des actions de grâce continuelles, à cause de la grâce de Dieu. » C'est la caractéristique du chrétien, c'est être en action continuelle de grâce pour tout. Bien sûr, pour les choses qui nous plaisent, et c'est pour cela que quand quelque chose de bon, quelque chose d'agréable arrive, le bon chrétien dit toujours Deo gratias, bien entendu, ah voilà un merveilleux, un plat vraiment délicieux, Deo gratias, voilà une bonne nouvelle, Deo gratias, voilà une promotion, Deo gratias, voilà quelque chose, un voisin qui m'apporte quelque chose d'agréable, Deo gratias. Mais attention, on ne remercie pas parce que ça nous plaît, on remercie parce que ça vient de Dieu. Bien souvent, nous sommes poussés à rendre des actions de grâce à Dieu parce que cela nous fait très plaisir. Mais en réalité, nous devons avoir les mêmes actions de grâce et même des actions de grâce un peu plus grandes encore, lorsque les choses nous font moins plaisir. Une épreuve qui nous arrive dans notre vie, une chose qui nous déplaît, une souffrance, une maladie, il faut dire aussi Deo gratias. Il faut le dire par la foi, évidemment, ce n'est plus soutenu par les sens, mais d'une certaine manière, peut-être que la manière dont nous allons le dire va faire que notre cœur va se purifier, puisque lorsque nous mangeons quelque chose de bon et que nous disons « c'est excellent, Deo gratias », d'une certaine manière, nous disons Deo gratias un peu du bout des lèvres en nous disant surtout « c'est excellent ». Mais si quelque chose, la chose que nous avons à avaler, si j'ose dire, est très mauvaise, et que nous disons véritablement « Seigneur, je vous rends grâce, je vous rends de continuelles actions de grâce », pour cette chose désagréable que vous m'envoyez, nous nous concentrons sur le Dieu qui donne, et non pas sur la chose donnée. La première caractéristique donc des mœurs dignes des chrétiens, c'est une reconnaissance constante pour tout. Je me fais mal, je me blesse, Deo gratias. Oui, mais c'est peut-être pas le moment, il faut d'abord se soigner. Deo gratias avant tout. Pensons que s'il nous arrive quelque chose de mal, de mauvais, disons, qui est pour nous un mal, qui est une souffrance, c'est que d'une certaine manière, nous en avions besoin. Vous allez dire, comment est-ce que nous le savons? Ben, c'est-à-dire que si nous n'en avions pas besoin, cela ne nous serait pas arrivé, puisque Dieu ne nous donne rien par hasard. Si Dieu nous retire quelque chose, c'est que, ou bien nous en avons fait mauvais usage, ou bien cet usage allait nous conduire, et nous ne le savions pas, mais à notre perte, Ou bien c'est qu'il veut que nous nous attachions à lui et non pas à ses dons. Une action continuelle de grâce, c'est la première et fondamentale caractéristique des mœurs des chrétiens. Ensuite, c'est la deuxième caractéristique des mœurs du chrétien, c'est des mœurs dignes que le chrétien doit avoir, c'est une attente continuelle par rapport à Dieu. Dans l'intro 8, il est dit ceci, « Donnez la paix, Seigneur, à ceux qui mettent en vous leur attente, pour que vos prophètes soient trouvés véridiques. Exaucez les prières de votre serviteur et d'Israël, votre peuple. » S'attendre continuellement à Dieu pour recevoir de lui la grâce pour faire toutes nos bonnes œuvres que nous devons faire. C'est une demande perpétuelle de cette grâce. « Seigneur, donnez-moi votre grâce. » On ne peut pas au début de la journée dire « Seigneur, donnez-moi une provision de grâce et puis je vous prierai à nouveau à la fin de la journée. » Nous devons dire au début de la journée, Seigneur, donnez-moi toutes vos grâces dont j'ai besoin. Et à chaque fois que nous avons besoin de faire une action, que nous devons faire une action, c'est-à-dire tout le temps, nous devons dire à Dieu, donnez-nous votre grâce, donnez-moi votre grâce. Vous allez dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut passer toute sa journée, même toute sa vie, à demander à Dieu ses grâces? Eh bien, mes très chers frères, bien souvent nous oublions de le faire, c'est pour cela que nous sommes si médiocres dans notre vie chrétienne. Lorsque nous demandons à Dieu sa grâce, il faut croire aussi qu'il nous la donne. C'est pour cela que saint Paul nous dit « Veillez à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain ». Si nous demandons à Dieu la grâce et que nous disons « Bon, ben, pour l'instant, alors je ne vais rien faire, je vais me tourner les pouces en attendant que Dieu me la donne », nous méconnaissons, si j'ose dire, l'instantanéité de la bonté de Dieu. Attention, si nous disons à Dieu « Seigneur, donnez-moi une belle maison, Seigneur, donnez-moi une épouse selon votre cœur, Seigneur, donnez-moi cette somme d'argent dont j'ai besoin pour vivre », peut-être que Dieu va différer. Pourquoi? Parce que il a toutes sortes. Ce sont des choses de la nature que nous demandons, des biens temporels, des biens créés. Donc, il nous les donne au temps opportun. Mais lorsque nous lui demandons sa grâce, Dieu nous la donne. Et le grand drame du chrétien, c'est que bien souvent, il demande à Dieu sa grâce. Alors, c'est déjà un miracle qu'il se souvienne et qu'il faille demander la grâce à Dieu et qu'il la demande, mais il ne se rend pas compte qu'il la lui donne. De telle sorte que, demandant à Dieu sa grâce, il reçoit sa grâce, mais la grâce, c'est comme l'air dont nos poumons ont besoin. Nous ne pouvons pas dire que dans la mesure où nos poumons ont de l'air, l'essentiel de notre journée est fait. Non, nous demandons à Dieu de l'air pour nos poumons, afin de pouvoir nous livrer à toutes sortes d'activités qui ne regardent pas directement, si j'ose dire, l'activité des poumons. Nous demandons à Dieu sa grâce. Nous savons qu'il nous la donne parce que nous sommes ses enfants et que si un père qui est méchant ne donne pas un scorpion à son fils qui lui demande un œuf, a fortiori Dieu nous donnera sa grâce chaque fois que nous la lui demandons. Il se trouve que nous ne devons pas la recevoir en vain. Nous devons faire attention de ne pas la recevoir en vain, c'est-à-dire de ne pas oublier que Dieu nous la donne. Le grand exemple que nous donnons toujours, c'est que nous donnons tout souvent, c'est dans ces sermons, c'est le suivant. Nous demandons à Dieu, par exemple, Seigneur, donnez-moi la grâce d'être patient. Et Dieu nous envoie une épreuve qui nous pousse, qui nous éprouve du point de vue de l'impatience. Alors on va dire, mais Dieu ne me donne pas sa grâce puisqu'il me pousse dans l'impatience. Non, Dieu ne peut pas me donner sa grâce si il ne me donne pas le moyen de la mettre en pratique. C'est un peu comme si nous disions à Dieu, donnez-moi des forces, et que Dieu nous donne des muscles. On va dire, mais je ne demande pas des muscles, je demande des forces. Oui, mais la force n'existe pas abstraitement. La force, c'est ce que les muscles, en bonne santé et bien entraînés, sont capables de déployer. Quand on dit cet homme déploie une grande force. Eh bien oui, il déploie une grande force, mais la force, ce n'est pas une sorte de quintessence qui rentre en lui et qui lui fait faire des choses. C'est ses muscles qui sont comme des liens d'acier qui résistent et qui sont capables de soulever des choses, qui sont capables de traîner, de pousser, de faire des choses. Dieu nous donne toujours sa grâce lorsque nous la lui demandons. La seule chose, la plupart du temps, ou bien nous négligeons d'en faire usage, ou bien nous méconnaissons qu'il nous la donne, ça c'est triste, ou alors évidemment ça ne nous arrange pas. C'est un petit peu comme cette pythonisse qui avait été exorcisée par saint Paul. Alors elle était bien contente, mais ses maîtres, puisque c'était une esclave qui vaticinait, ses maîtres étaient furieux contre saint Paul. Ils étaient furieux, ils n'étaient pas contents de voir leur pauvre esclave revenu dans son bon sens, ils étaient furieux parce qu'elle leur procurait de l'argent. voyez, et bien souvent, lorsque nous prions à Dieu et que nous lui disons « Seigneur, donnez-moi votre grâce », nous lui disons du bout des lèvres. Et bien sûr, lorsque nous lui disons du bout des lèvres, c'est que nous n'avons pas vraiment envie d'avoir sa grâce. Et là, évidemment, je ne dis pas que Dieu ne nous donne pas sa grâce, mais en tout cas, nous sommes dans des mauvaises dispositions. Donc la deuxième caractéristique des mœurs dignes des chrétiens, c'est que nous lui demandons la grâce, sa grâce perpétuellement et que nous ne la recevons pas en vain. En troisième lieu, une troisième caractéristique, c'est un enrichissement. C'est pour cela que dans l'Épître, saint Paul dit « À cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, en qui vous êtes devenus riches de toutes sortes de biens, de tous les dons de la parole et de la science, le témoignage du Christ ayant été solidement affermi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. » C'est un enrichissement. Nous devons comprendre, mes très chers frères, que nous ne devons pas nous imaginer que nous ne devons pas nous imaginer que nous allons croître dans la grâce de Dieu si nous ne, comme nous le disons souvent, nous ne faisons pas ce qui relève de notre état. C'est une chose très fondamentale, c'est pour ça qu'il nous faut rappeler un peu constamment cette réalité. Ce n'est pas en nous imaginant que nous allons faire toutes sortes de choses pour la religion que nous allons attirer sur nous beaucoup de grâce. Il y a beaucoup d'orgueil qui rentre là-dedans et beaucoup de témérité aussi. Mais nous devons demander à Dieu notre nourriture de grâce selon notre état. Nous devons demander à Dieu, non pas qu'il fasse de nous des chevaliers, des apologistes, des conquérants qui nous rendent semblables à Saint-Louis, je ne sais pas trop dans quel... aujourd'hui, tout le monde s'imagine qu'il faut demander à Dieu de faire de chacun chaque chrétien un Saint-Louis. Si Dieu répondait à cette absurde prière, alors on s'apercevrait que le Moyen-Âge à l'époque de Saint-Louis, n'a eu qu'un seul Saint-Louis par royaume, si j'ose dire, est bien désavantagé par rapport à nous qui avons plein de Saint-Louis et puis plein de Sainte-Louisette aussi, parce que tout le monde demande ça à Dieu, les hommes, les femmes, etc. Donc, il nous faut demander à Dieu les grâces selon notre état. Nous devons demander à Dieu, ou plutôt les mœurs des chrétiens, les mœurs dignes que les chrétiens doivent pratiquer, qui doivent caractériser les chrétiens plus précisément, se manifestent par un enrichissement de la vie chrétienne selon l'état. Si le bœuf désire manger ce qui est le propre du lion, eh bien, il va mourir d'indigestion, parce que autant le lion mange des animaux, autant le bœuf qui veut usurper l'état du lion, eh bien, s'il mange la même chose que le lion, il va crever. Et de même, si le lion veut manger de l'herbe comme le bœuf, et que ce n'est pas encore le moment, eh bien, il se trouve qu'il mourra aussi, il mourra dans d'atroces souffrances, puisque le lion n'est pas fait pour manger de l'herbe, mais il est fait pour manger de la viande. Vous voyez, mes très chers frères, faisons très attention. Très souvent, il nous semble, à juste titre, que le christianisme, la vie chrétienne, doit se manifester par une surabondance de richesses qui nous vient d'un bon usage de la grâce. C'est vrai, mais attention, tout ce qui nous semble être un bon usage de la grâce ne l'est pas forcément. Nous ne pouvons être certains que nous faisons bon usage des grâces que nous recevons que dans la mesure où nous les utilisons dans le cadre de notre devoir d'État exclusivement. Et le quatrième caractéristique des mœurs dignes des chrétiens, c'est justement consiste dans la dignité chrétienne. Il y a une façon de porter son lit qui n'est pas digne de Dieu. C'est bien sûr quand on vit une vie chrétienne languissante, bien entendu, lorsqu'on vit une vie chrétienne de paralytique, alors que nous ne sommes pas paralytiques. Il se trouve que lorsque nous portons notre lit de la bonne façon, nous accomplissons cette parole de saint Paul qui est d'user comme n'usant pas. Notre lit est fait pour nous porter, mais la plupart du temps, c'est nous qui portons notre lit. Vous voyez, c'est nous qui maîtrisons les choses qui relèvent de notre devoir d'État. Et ce n'est pas elle qui nous maîtrise. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une dignité chrétienne. Il y a une dignité chrétienne, il y a plutôt une réalité de la dignité chrétienne qui se manifeste chez les chrétiens par de la retenue, par de l'abstinence, par le retranchement du licite. Tout ceci, ce sont des manières concrètes d'offrir à Dieu le sacrifice, ou plutôt de perpétuer le saint sacrifice de la messe. Le sacrifice qui est, je vous le rappelle, une manière de rendre sacré les choses de la nature, de rendre sacrées, comme sacrifaturées, les choses de la nature, c'est-à-dire opérer leur réduction. Alors que vous allez dire, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que le chrétien, ça signifie que le chrétien n'est pas une sorte d'être pimpant qui est constamment prime sautier et qui est constamment en train de bouffonner, constamment en train d'amuser la galerie, constamment en train de se pavaner ou constamment en train de faire éclater sa sensualité, même si elle n'est pas, elle est licite, disons. Mais vous voyez, comme un gourmet ou comme quelqu'un qui apprécie toutes sortes de choses, je dis ça, mais on pourrait le mettre aussi pour toutes sortes de choses, il y a de l'intempérance dans tout ce qui est bon. Il peut y avoir d'intempérance. Il ne peut pas y avoir d'intempérance dans le péché, puisque le péché est mauvais. Mais l'intempérance a lieu dans les choses bonnes. Donc le chrétien doit se caractériser par de la retenue, c'est-à-dire par une certaine dignité. Chacun selon son état, mais c'est une certaine dignité. Le chrétien ne peut pas être une sorte de bout en train qui est constamment qui est en train de faire le bouffon. C'est une caractéristique. Alors vous allez dire, c'est une caractéristique du chrétien. Vous allez dire, oui, mais si tous les chrétiens font comme ça, nous allons avoir l'air de toute une congrégation de gens très sages, avec beaucoup de retenue, et puis nous allons être les gens les plus ennuyés du monde. Il ne s'agit pas ici, mes très chers frères, d'être les gens, de savoir si nous allons devenir les gens les plus ennuyeux du monde, puisque nous ne le serons pas, mais de savoir si la religion ne nous semble pas ennuyeuse. Et c'est ça le grand problème du chrétien. C'est que bien souvent, la religion interprétée dans son sens strict, c'est-à-dire dans son sens vrai, selon sa vérité, lui paraît ennuyeuse. Pourquoi? Et parce qu'il lui semble que faire sa volonté propre est beaucoup plus intéressant. Et c'est fort vrai, mais c'est vrai pour l'homme que nous ne sommes plus, c'est-à-dire pour le vieil homme. Ce vieil homme qui trouve la religion chrétienne fastidieuse est mort par le baptême. Et nous sommes ressuscités de nouvelles créatures. Donc vous voyez, la dignité du chrétien se manifeste aussi par la modestie, modestie dans son vêtement, modestie dans son comportement, ses intonations, ses gestes, ses activités qui sont proportionnées à l'état. Tout ceci fait partie des mœurs chrétiennes qui caractérisent les chrétiens. On ne peut pas être chrétien et avoir l'air mondain, on ne peut pas être chrétien et avoir un air qui n'est pas un air de quelqu'un qui, d'une façon générale, se souvient qu'il est pèlerin et étranger sur la terre, et qui, encore plus, si j'ose dire, qui se souvient qu'au moindre faux pas, il risque de perdre l'amitié de son Dieu, ce qui est la pire chose, qui est le seul malheur qui puisse arriver aux chrétiens, véritablement ici-bas. Et c'est bien là la preuve, mes très chers frères, ce sera là la preuve que la grâce agit en nous, et que nous ne la recevons pas en vain. Alors je ne peux que nous souhaiter à nous tous ces paroles de saint Paul, qui parlait de cette plénitude de toute grâce dont les chrétiens de Corinthe étaient remplis, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes très chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ est aux portes. Mettons en pratique sa parole. Ne nous contentons pas simplement de l'écouter avec l'aide de Dieu, mettons-la en pratique, ayons les mœurs qui sont dignes de la vérité que nous professons, et cette vérité même sera notre bouclier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.